この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Soumis ma scène turbo, épisode combien? 15, 16? Ah, on ne les compte plus, en tout cas
15.
Ça, 15.
Ah oui, il se fait beaucoup.
Même s'il y a eu 14-2.
14-2.
Non, il y a eu 13-2
et le 14. Et 14. Malheureusement, oui, on sait que c'est un épisode qui vous a beaucoup marqué et nous aussi, forcément.
On a eu beaucoup de retours.
On a eu beaucoup de retours extrêmement chaleureux autour de l'hommage que nous avions rendu à Akira Toriyama.
Bon, il s'avère qu'il va un peu continuer encore, ouais. Parce que il est toujours là un peu. Son œuvre est là.
Ce sera un hommage perpétuel. Il s'avère également que cette émission sera elle aussi dédiée à une autrice qui a disparu durant l'intervalle. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On va parler de Mutsumi Inomata durant l'émission, forcément, puisque cette grande illustratrice nous a également quitté durant le mois de mars. Ce sera l'occasion de se replonger aussi dans tous les gros jeux. Tous les gros titres qui ont émaillé ce mois, à savoir Unicorn Overlord, à savoir Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin, Princess Peach Showtime. Gros mois de reco aussi. C'est-à-dire que Daniel est arrivé avec une cargaison de reco, rassurez-vous.
Non, ça va.
Une belle liste.
Tu veux dire qu'on se dirige vers une émission de 3h30 minimum.
Suffisamment pour qu'il y en ait vraiment beaucoup dans les bonus et qu'on dise non, il y en a trop.
Rassurez-vous, notre esprit de synthèse est intact. Mois après mois, vous le savez, on vous garantit.
Vraiment, tu
on
nous
vends ça. On n'a jamais tendance à déborder, c'est comme ça. Parce que voilà, on arrive à cerner, cadrer les sujets.
En plus, t'as un conducteur.
J'ai un conducteur, regardez, il est sublime. Il est tellement éteint.
T'as plus de batterie ?
Non, c'est juste que le conducteur est dans la tête.
Épisode 15, il en est déjà complètement
aux F. Non, c'est uniquement pour le point news, ça vraiment sert après le conducteur.
D'accord.
Je vous laisse
parce
aller.
Parce qu'il y aura des news, jeux vidéo à la fin.
On m'a dit, c'est important de laisser la liberté aussi aux chroniqueurs que vous êtes, Daniel et Greg, les senpai du jeu vidéo japonais, de la pop culture, parce que c'est ça, Sumi Masen Turbo, le rendez-vous mensuel.
Les vétérans.
Autour. Ou les vétérans ? Allez.
Ouais, vétéran,
ça fait les mecs qui ont bourlingué, ça fait baron.
Ça fait les mecs qui ont été à la guerre.
Senpai, c'est les mecs qui savent, tu vois. Sachant.
Non. Tu sais quoi, il y a toujours plus senpai que toi. C'est pas le.
Plus senpai que Greg, quand même. Non, je te rassure.
Bah si, je réfléchis, il doit y en avoir.
Si,
mais
enfin,
j'ai pas été le premier.
Il y a eu des passeurs, et puis à différents niveaux, il y a. Tu sais, on parle de passeurs, mais tu sais, il y a eu ceux qui ont amené la littérature japonaise en France, il y a ceux qui ont amené le cinéma. Genre, il y a eu Kurosawa, tu vois, des Kurosawa, tout ça. Et ça a été, c'est des vagues différentes. Nous, on est la vague Dragon Ball.
C'est vrai.
La vague Saint Seiya.
Je pense que, enfin, les senpai, enfin, si je devais choisir des senpai, là, qui me viennent comme ça, il y aurait Dionnet. Pour le cinéma de genre et Jean-Paul Genquin pour le manga, je pense, qui était alors bon, vraiment, c'est vraiment les plus anciens de nos auditeurs qui les connaissent, parce que sinon les autres vont...
Parce que nous aussi on a découvert les mangas, ouais. Et c'était pas juste en allant juste à Tonkam rue Keller.
Ouais, j'ai revu d'ailleurs des images d'archives, des photos d'archives du Tonkam de 95. Je sais plus qui a ressorti ça. Ah bah c'était pour l'hommage à Dragon Ball, où on voyait des photos de l'époque, de la file d'attente devant le magasin, ce genre de choses, c'était assez...
Bah,
la sortie du tome 42.
Ouais. Le tome 42 durant l'été 95, un événement.
Ils ont vendu 20 000 tomes 42 en japonais. Il y a des mangas en français aujourd'hui qui font... Enfin, il y a énormément de mangas aujourd'hui qui sortent en français qui ne font pas 20 000.
Mmh. Il y avait le mien, il y avait le tien.
Ouais.
Non.
Tu n'avais pas acheté, toi? Ah, toi, tu lisais en prépu? Moi, j'ai acheté direct.
Non, je pense pas que je l'avais acheté.
Je l'ai relu trois fois en me disant, c'est vraiment ça la fin?
C'est un des rares mangas que j'ai trouvé en maison de la presse, en japonais. Hein. C'était sur Lyon à l'époque, donc durant l'été 95. Et tu arrives à la maison de la presse et t'avais le tome 42 japonais sur le comptoir.
Incroyable.
T'avais des buralistes plus malins que les autres. Moi, je me souviens que dans certains, t'avais... Quand Joypad, la rédaction, était à Levallois, au coin de la rue, il y avait deux petits bars PMU qui vendaient des cartes Yu-Gi-Oh!
Ah, d'accord.
Japonaise.
Ah ouais.
Voilà. Mmh. Et il y avait des gamins qui faisaient la queue devant tous les midis.
Si on nous avait dit les cartes Yu-Gi-Oh, les cartes Pokémon.
Oh, bah là, je suis lancé dans un jeu de cartes, me lance pas sur ce sujet-là.
C'est
ça
vrai,
sera réservé pour un directeur Scott. Oui, un jeu de cartes Disney. Ah non, un jeu de cartes Disney.
Ah non,
physique.
Tu joues à TCG.
Oui, tout à fait. L'Arcana. Ouais. Je le confesse.
Alors, moi, on m'a dit que les cartes sont très belles, mais que le jeu est nul.
Non, le jeu est très bien. Les cartes sont très belles. Donc vraiment, il y a tout pour plaire.
Moi, je suis sur Queen's Blood. Mais avant tout ça, Puyo, parce que le
avant tout ça, parce que là, on digresse.
Pas commencé
et il faut dire que on a découvert l'arc Daniel. On avait l'arc Daniel appli
ouais.
application sur téléphone, et on a désormais l'arc Daniel manutentionnaire, puisque il faut remercier eh bien tous les patriotes pour leur soutien continu pour la publication du Soumibook. C'est-à-dire que eh bien Daniel a posté l'annonce sur le Patreon pour les réservations, les commandes du Soumibook. Elles se sont envolé en l'espace du quoi d'une heure, donc va encore plus vite que Dua Lipa.
Il y a eu deux vagues, il y a eu le Discord a été mis au courant, ensuite il y a eu le post, et c'est vrai que
tout est parti.
C'est vrai que c'est parti vite. On a une liste d'attente. Oh, j'ai prévu une espèce de marge pour au cas où il y a des problèmes avec la poste et des trucs ou des désistements ou des choses comme ça, mais je pense qu'on arrivera à honorer au moins tous les patriotes, et c'est le moment de remercier les patriotes qui nous soutiennent depuis le début. On a voulu faire le bouquin on est à perte. on est à perdre ce bouquin, mais on a voulu...
Justement, c'est grâce à eux.
C'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, et merci à vous. Maintenant, d'ici une semaine, ils seront dans les boîtes aux lettres. Je découvre le
dans les boîtes aux lettres emballé à la main quand même.
Le public postage, le public postage. Genre, je suis allé.
Les étiquettes.
Je dis bonjour à Flo. De la Poste, qui est un auditeur, et je lui ai offert un Soumibook. Je lui ai dit, tiens, évidemment.
Bah, t'auras pas besoin de l'envoyer, celui-là.
Exactement. Non, mais du coup, c'est un peu une logistique auquel je suis pas habitué pour ma part.
Il t'a bien aidé, a priori.
Ouais, la Poste m'a bien aidé, mais par contre, la Poste a un prix. Voilà.
Ah, bah oui.
15 balles à l'étranger, je m'y attendais pas.
Bah, tu veux dire qu'on n'est pas Amazon?
Non, on n'a pas de tarif Amazon. Et à l'étranger, ça veut dire les frontières de France. Hein. C'est vraiment ça.
Il y en a certains qui sont partis au Japon.
On a deux au Japon. Je dis bonjour à Atine, qui se reconnaîtra.
Et l'autre, par contre.
Non, je crois qu'on n'a qu'un seul au Japon. Par contre, je tiens à dire bonjour à tous nos publics en Belgique. On a beaucoup de patriotes en Belgique. On remercie les Belges.
Prends l'accent belge pour remercier les Belges.
Non, parce que je suis très mauvais en accent, mais c'est Hubert qui est ici. C'est une occasion de dire bonjour.
Ah, c'est Boulapoire qui avait un accent parfait.
Boulapoire, il était bon en accent. Là. Alors
Québécois,
que Hubert, on le garde, mais il n'a pas d'accent.
Ah bonjour.
C'est nul. À chier.
Attends, c'était l'accent belge.
Moi
j'ai cru que c'était Patrick Sébastien qui faisait Jacques Chirac.
Ah, crac, mangez des pommes.
Oh là là,
c'est lamentable.
Non.
Et on dit bonjour à nos amis en Suisse aussi.
Ah bah j'en ai vu plein.
Ah,
à Polymanga.
C'était à Polymanga. Il y a certains qui vont en Angleterre, il y en a qui vont en Irlande.
Tape pas sur la table.
Pardon, excuse-moi,
tu vas te faire taper par notre ami belge.
Du coup, j'ai pu voir, il y en a un qui va en Australie.
Waouh, c'est plus loin, je pense.
Oui, je pense que
c'est... À moins que Thomas Pesquet soit un patriote.
Non. Mais bref, on en a qui partent, et donc on est content d'avoir fait ce bouquin qui est vraiment pour les fans. C'est vraiment pour
les fans. Est-ce que tu en envoies en Californie?
Il y en a aux États-Unis, je sais pas si c'est en Californie pure. Pourquoi t'as des...
Non, pas du tout. Non, c'est juste que je sais plus pourquoi.
Tu veux le déposer toi-même?
Non, l'info m'est revenue. En fait, Arnold Schwarzenegger est abonné à Charlie Hebdo.
Et
donc, donc je me demandais si Arnold Schwarzenegger était patriote.
On en a au Canada. Je fais un wiki pour toi.
J'y vais là bientôt.
Tu vas dans 48 heures.
Très bien.
Et du coup, on vous remercie de votre soutien. Et quoi qu'il en soit, patreon.com/sumimasen pour nous soutenir.
On rappelle aussi qu'il y a d'autres moyens de nous soutenir. Hein. Si vous n'avez pas l'opportunité d'être patriote, eh bien,
l'émission
un petit pouce, une petite cloche, un petit Arte, voilà, tout ça, mange pas de pain, et ça nous permet de faire monter la chaîne dans les fameuses recommandations.
Mais grâce à tous ces nouveaux patriotes, parce qu'il fallait passer juste niveau divin un mois, c'est la seule chose qu'on demandait pour le bouquin, sinon on vous l'envoie à l'œil. Il y a beaucoup de gens qui vont découvrir aussi les Director's Cut. Et donc,
celui-là,
c'est Puyo qui raconte la fraude. Il y a un bouquin interdit aux moins de 18 ans.
Ah, oui.
Enfin, bon. bref, euh, Oui, voilà, il y a du, il va être chaud bouillant.
Et vous pouvez évidemment rattraper les anciens Director's Cut.
Oui, ça fait quand même peut-être 15 heures de vidéo, 16 heures de vidéo.
Faut prévoir.
Ah bon, on a une heure de bonus à chaque fois.
Bah, on a 45 minutes de bonus en général à tous les épisodes.
Ah ouais.
Et donc tu les mets bout à bout.
Ah oui, effectivement.
Alors c'est des bonus en mode détente. Hein. Ils sont pas réalisés au cordeau comme Hubert.
Il y a des bonus en mode détente. Il y a eu aussi les making of. Il y a eu des trucs. Il y a eu vraiment beaucoup de. C'est quelque chose quand même qu'on soigne. On essaie toujours de trouver quelque chose à dire après avoir enregistré 3 heures d'épisode. Putain.
Non, mais là, on a dit qu'on fait condenser. Ça fait déjà un quart d'heure. On est sur le tempo habituel.
Mais les gens peuvent avancer. Et du coup, on pense à faire, et ça, c'est une idée de Hubert, on pense à faire des versions cut de l'émission, c'est-à-dire juste des moments.
Sumimasen Turbo Kai.
Par exemple.
Sumimasen Turbo Dash.
Comme dans Dragon Ball Kai.
Ah ouais, peut-être.
Oh, où on enlève les épisodes filmés.
Sumimasen Kai. C'est pas mal, hein, c'est une bonne idée. Et donc, Greg, machine à idées.
Il y arrivera.
Et donc, ça serait de faire des versions cut. Et il m'a dit, comme Popcorn. Et tu sais quoi, il faut regarder quand même les boss du milieu.
C'est quoi Popcorn? Pardon, je.
Non, on était
les boss, lutin. Mais.
Ouais. Arrête de taper sur la table.
Pardon, excuse-moi.
Il est dissipé.
Ah oui, hein, vraiment.
C'est bon.
C'est le Director's Cut, ça, c'est sûr.
Donc, voilà. Et alors, Popcorn, c'est un gros podcast?
Oui.
D'accord. Ah ouais, c'est gros quand même.
C'est le plus gros.
Ouais,
d'accord.
C'est,
bon. Okay.
C'est comme si tu me disais, tu connais pas Élise Lucet.
Comme si tu connais pas Soumis à Saturne.
Ah non, moi je paye mes impôts, hein, je connais pas Élise Lucet.
Bon! Alors le bon, ça veut dire que bon, on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet, vous le savez, on parle souvent de jeux vidéo dans Soumis à Saturne, mais avant d'attaquer la partie jeu. Et la partie actualité du jeu vidéo, eh bien, on va passer à l'instant reco. Et là, Hubert m'a dit, pour l'instant reco, on fait une petite pause, tu vois, histoire de passer un petit jingle. Puis moi, c'est bien parce que ça me permet de caler tout le chapitrage. Après, j'ai juste à glisser le truc, je vois le jingle, je me dis, ah, c'est là que j'arrête. Donc, ça fait double emploi. Attention, jingle. Le meilleur des recos des mois de mars pour Sumimasen Turbo, c'est une rubrique qui a été complètement carrée par Daniel.
Avril.
Ah oui, avril. Ah, ça passe tellement vite. Mmh. Oui, ouais, on est déjà en avril.
Oui, c'est vrai.
Bon, tout ça pour dire que c'est Daniel qui s'en charge, qui s'en est chargé, parce que nous, mon cher Greg,
on a été là, le temps a manqué.
Pourtant, j'ai eu des pépins ce mois de mars. Et j'ai eu une semaine d'hôpital avec mon fils et du coup, il y a un jeu qui en a pâti.
Oui.
Je dirais lequel après quand on fera les jeux.
Mais tu as trouvé quand même le temps d'aller voir des chefs-d'œuvre cinématographiques.
Je suis allé en AVP en me disant, je suis allé à Issy-les-Moulineaux.
Avant-première, carrément.
Ouais. J'étais le fief de Hubert d'ailleurs, je tiens à le dire. Et c'est un truc dont je voulais parler en bonus, mais tu m'as dit non, c'est trop nul.
C'est trop important. C'est trop important.
C'est trop important.
Ah, de dénigrer le produit comme ça.
Ouais, attends que ça va venir. C'est un film qui s'appelle Sidonie au Japon.
Ah.
Alors tu pourrais dire, ah, c'est pas mal. Ah. Honnêtement, quand tu entends Sidonie au Japon, je pense à Bécassine à Tokyo, tu vois, c'est un peu ça. Alors, il y a Isabelle Huppert que tu adores, je sais, Puyo.
Ouais, j'ai une relation assez ambivalente avec Isabelle Huppert. J'ai vu qu'elle avait été pas mal chahutée dernièrement lors d'une représentation de Bérénice où il y avait eu une forme de Yannick, le film de Quentin Dupieux.
Où les gens se sont levés.
En réalité,
se sont levés pour dire Isabelle,
c'est nul.
On n'entend pas ce que tu dis.
Comme Homer Simpson. Ouais.
Alors là, il y a pas beaucoup d'intonation de sa part. C'est-à-dire que elle est passée un peu en mode dictée magique.
Elle joue monocorde.
Elle joue très très monocorde, mais comme les Japonais, mais eux ils ont dû apprendre phonétiquement leur texte.
C'est des acteurs japonais qui parlent pas français.
Ouais, l'acteur principal s'appelle Tsuyoshi Ihara, que on a vu dans Iwo Jima, tu vois. Donc c'est vraiment un bon comédien. Il est très très beau. Et évidemment, elle veut.
C'est Isabelle Huppert ou c'est une actrice française qui arrive au Japon?
Isabelle
c'est Sidonie,
Huppert,
évidemment.
Sidonie est une autrice à succès qui va dire, on voit des très belles images. Tu parles. dont le bouquin est republié au Japon. Elle va faire une tournée
promotionnelle
au Japon. Et
très bien.
Ah, mais il y a la belle île de Naoshima, mais j'ai jamais vu Naoshima aussi mal filmé. Mais c'est voilà.
Bon.
Et du coup, elle est hantée par le souvenir, le yokai de son ancien mari, qui est joué par Auguste Diehl, un acteur franco-allemand, qui, d'après ce que m'a dit mon camarade Jérôme Lachasse, joue plutôt des nazis en général. Et là, il joue un fantôme, donc ça le change un peu. Et donc Isabelle Huppert, bah voilà. Alors il y a un, tu n'y crois pas une seule seconde, hein, son histoire de bouquin. Tu sais, il y a des fans conglomérés dessus. J'ai du mal à y croire. Mais surtout, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que c'est une repompe plus ou moins de Lost in Translation qu'on apprécie. Moi, j'apprécie
ah
ouais, plutôt.
Du karaoké, Isabelle Huppert au karaoké.
Il n'y a pas karaoké. Il n'y a pas karaoké, mais elle se balade. Il y a ce regard un peu éthéré sur le Japon. Et surtout, bon, c'est un film.
Ce qu'on voit là, le lexique, le glossaire intégré, c'est non, dans le film également, c'est juste pour la bande annonce.
Attends, je recontextualise pour les gens qui nous écoutent. En fait, la bande annonce tourne en boucle et en plus des sous-titres. On a des petits éléments de contexte où on nous explique que s'incliner, c'est très important et qu'aujourd'hui, s'incliner à plus de 45 degrés, c'est très rare, pas du tout. Mais enfin bon, bref, c'est très important de saluer. C'est le mystère de l'Orient, le Japon transcendantal.
Greg, voilà. Tu mets le point exactement sur le problème, c'est que c'est écrit un peu comme ça, c'est écrit un peu...
Le mystère de
Fushigi.
L'Orient.
Un peu le Japon Fushigi. Et en plus, ça s'autorise quelques petites
vannes racistes.
C'est pas des vannes. Je crois que c'est vraiment. Je crois que c'est pas volontaire, mais genre il y a un moment, elle voit une japonaise et elle se dit bah c'est elle ma traductrice. Et littéralement, c'est genre elle l'a confondue avec une autre. Et je pense que le sous-entendu c'est
ils se ressemblent tous.
Je te le fais pas dire.
Ils ont fait une cabu quoi.
Ils ont fait un peu une cabu. Il y a un moment. Il y a aussi, dans les petits moments racistes, il y a eu quoi déjà? Ah oui, il y a eu évidemment, ah, vous les Asiatiques, vous êtes si mystérieux. Il dit oui, nous on parle pas, on n'exprime pas nos sentiments. Et elle lui dit des trucs du genre, tes yeux allongés, ils sont si mystérieux, vous les Japonais.
Ah ouais!
2024, mon gars.
Oula!
Ah ouais, non, c'est. Alors honnêtement.
Ah, vous mangez avec des bâtons, c'est bizarre.
C'est catastrophique. Alors à un moment, ils vont à Naoshima, qui est une très belle île, qui est vraiment un endroit que je vous recommande, intégré dedans. Une île magnifique avec beaucoup de. C'est un île musée, hein, tu vois, et donc elle reste là-bas, mais c'est filmé de manière pas très alléchante. Il y a une scène d'amour qui est en mode voix off et photo, genre souvenir photo, quoi.
C'est-à-dire qu'elle voit le yokai de son mari, mais du coup elle. Une aventure avec un japonais, c'est
au
ça
bout d'un moment, le yokai de son mari, genre il laisse un peu. Voilà, et elle
dit éclate-toi, chérie.
Éclate-toi.
Exactement.
Ah, parce que du coup, t'es pas allé au bout du pitch. Le pitch, c'est qu'elle va au Japon accompagner la sortie de son bouquin.
Ouais.
Et elle va passer. Elle fait un voyage de presse, en fait.
Elle fait une sorte de voyage de promotionnel, ouais.
Et du coup, elle découvre les mystères de l'Orient et les mystères du comportement des autochtones. Et
il y a tout.
Elle adhère un peu à la philosophie zen japonaise.
Zen,
c'est ça que tu veux.
Moi, exactement. Ça, c'est vraiment le film ni bon ni mauvais. Hein, ouais. C'est vraiment.
Ah. Moi, le truc qui m'a.
Je paierais pour voir Greg assister à la séance.
Ah, non, mais,
en bonus,
on va. 1h30, ressenti 3h.
Alors, moi, il y a un truc.
C'est chiant aussi.
Alors, il y a un, je dis pas un, mais je n'ai vu que la bande-annonce, mais la chose qui m'a choqué, c'est quand elle arrive à l'aéroport avec le gars qui tient son nom avec une pancarte, elle lui tend la main et l'autre se penche. Et tu sais, genre, il lui met un vent, en fait. Ouais. Mais ça n'existe pas au Japon, ça.
Non, mais
ça évidemment,
n'existe pas.
Évidemment. Au contraire, il s'adapte à toi. Enfin, c'est...
Et puis,
ça n'existe plus. Enfin, on croirait Spirou au Japon, tu sais, dans les années 70.
C'est contemporain, c'est pas en 1980.
Non, c'est là. Okay. Alors, il faut dire aussi un truc, c'est que Isabelle Huppert, il met pas du sien. C'est-à-dire que, tu vois, on lui dit, ah non mais votre avion, vous êtes en retard pour mon avion. Elle dit, ah, je suis désolé. Et lui dit, non mais c'est bon, votre avion a été retardé de 3 heures. Vous pouvez monter dessus. Et là, elle fait, ah. Et c'est joué un peu comme ça, avec cette intensité-là.
Quoi ? Les avions au Japon arrivent en retard ? Qu'est-ce qui se passe ?
Non, mais,
ah oui, pardon.
Écoute, c'était...
C'est invalidé.
C'était nul.
Il n'y a pas le tampon. Ah ouais, à ce point-là.
D'accord. Ah,
t'as pas aimé. Je n'ai pas aimé.
Sur Letterboxd, j'ai mis 0,5.
Ah oui, bah oui, j'ai
Est-ce qu'on peut y aller pour rire ? Genre bingo des clichés, on va se marrer entre potes.
Je crois pas. Je crois que tu sors, mais t'es fâché. J'étais sorti fâché.
Ouais. Ah, c'est même pas, on peut même pas se moquer du côté rétrograde du film.
Non, parce que c'est pas Wasabi qui est en même temps une
Ah, Wasabi était pas rétrograde, Wasabi était faussement pop.
Il était faussement pop, mais il était quand même con, il était con-con, quoi. Comme
oui,
film.
Oui.
Mais con-con dont tu pouvais te moquer, parce que bon, il y avait Jean Reno qui jouait comme Isabelle Huppert, d'ailleurs.
C'est le Japon, ça éteint les acteurs, tu sais.
Mais là, il n'y a pas de. Les seules vannes, c'est vraiment le truc de. Ah, la traductrice, ah, bah, elles se ressemblent toutes, tu vois, qui est un peu sous-entendue et tout. C'est...
Donc c'est plus malaisant que rigolo.
C'est plutôt malaisant, et c'est fou que ce genre de film américain se monter, mais ça n'a pas dû coûter très cher.
Ouais. Bon, ça, c'était la non-reco du mois d'avril. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles tu voulais revenir, insister.
Ah bah oui, si vous voulez vraiment du vrai Japon, du vrai Japon et du vrai...
Authentique.
Pas le menu acquis.
Non, et du vrai Japon intéressant, sur Arte, la semaine dernière, ou je crois, ou il y a deux semaines, a été diffusé le documentaire Yakuza, et alors... Magie d'internet, vous pouvez le regarder sur le site internet en catch. C'est deux épisodes
en VOD.
En VOD, merci. Deux épisodes d'une heure. Il y a une thématique, je crois qu'il y en a un que c'est l'héritage et l'autre c'est la violence.
Oula, il y a du sang, ouais.
Oui, non, il y a pas mal d'images d'archives et tout ça.
Éloignez les enfants.
Et c'est passionnant. C'est passionnant. Ce qui est intéressant, c'est que il a réussi à interviewer. Donc le réalisateur qui s'appelle Michael Prasant a réussi à interviewer beaucoup de Yakuza en fait, des anciens, des récents, des repentis. Ça c'est un flic et le flic il a l'air plus Yakuza que les Yakuza. C'est comme dans le jeu. Hein.
C'est Vic McKay.
Non mais il a l'air, c'est quoi, il fume des clopes mais comme dans les Yakuza, c'est genre il est dans un nuage de fumée, il est plus vrai que nature. Il dit ouais la corruption, mais je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce personnage. Et c'est assez intéressant parce que vraiment il y a pas de mystification, c'est vraiment les ce qu'on appelle les yakuza qui essaient de parler en sur le devant de la scène. Et le deuxième partie est vraiment très intéressante parce qu'il nous parle de yakuza aujourd'hui, puisque les yakuza sont en train de disparaître et c'est un vrai problème dans le jeu aussi, c'est que en quoi ils sont en train de se transformer. On a parlé des hangulé dans les judgments. On en parlait de là-dedans, on parle de la modification de la structure même de Yakuza, qui était un truc inhérent dans la société japonaise, dans la vie politique, dans la vie économique, et maintenant qui est en train de se modifier et qui prend d'autres tournures. Et donc je trouvais ça vraiment intéressant. Donc c'est deux heures, mais ça passe très vite. Et en même temps, ça reste pédagogique puisque on vous explique les Yakuza, on vous explique aussi le coup des tatouages, les doigts, les différents rites. C'est à la fois très accessible pour les débutants et très pointu. Il y a Jake Adelstein qui est un peu
qui est toujours un peu
l'inévitable mec, mais qui en même temps
donc l'auteur de Tokyo Vice,
qui est en même temps très calé sur le sujet. Hein, tu peux pas dire. Du coup, voilà, c'est vraiment. Moi, vraiment, je vous recommande chaudement. Et c'est dispo encore un mois ou deux. Donc, sur le site, allez voir, vraiment.
Il y a un passage où il explique qu'une des femmes.
Ah, tu l'as vu?
Oui, je l'ai vu. C'est pour ça que je voulais rebondir dessus. Il y a un passage dans lequel il explique que l'une des femmes des Yakuza n'hésite pas, elle aussi, à se trancher. Je crois que c'est le pouce. Hein.
Ouais, c'est carrément le pouce.
Ah oui, le pouce, c'est le pire des tranchages.
Fini les jeux de rythme.
Ouais. T'as un Dragon's Dogma, ça va être dur. Mais voilà.
Oui, et on lui dit, c'est pas la peine. Et elle fait, si, c'est mon mari.
Voilà, donc, c'est mon mari et je tiens à...
Pour toi, c'est un signe d'amour
j'ai trouvé ça un petit peu jusqu'au boutiste, mais si elle l'a senti comme ça.
Ton épouse, tu lui demanderais ce genre de
choses? Bah, plutôt petit doigt.
Bref, effectivement, c'était. En tout cas, c'est passé extrêmement vite. Bon, j'ai été moins attentif que toi, parce que je jouais en même temps, je joue souvent les trucs d'Arte. Donc, il y a certains passages que j'avais oublié que tu as mentionné. Ah, j'ai du mal, j'ai l'attention qui se disperse un peu. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir.
On fait beaucoup de choses. Moi aussi, je fais du tri.
Le multitasking, c'est pas très bien pour se concentrer sur certains sujets.
J'ai encore d'autres.
Tu as le pass gratuit qui
intéresseront Greg. Il y a Gundam Seed Freedom qui sort en France.
Ah, je suis pas sûr qu'il m'intéresse en fait.
Ah ouais.
J'adore Gundam Seed et je déteste Gundam Seed Destiny.
Mais pour quelle raison?
Ce film se déroule après Destiny. En fait, Gundam Seed, ça a été un vrai succès surprise, on va dire, au début des années 2000. Ça a vraiment réussi à. Enfin. C'est la série qui a réussi à réconcilier les vieux fans de Gundam et les nouveaux. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, t'avais les fans qui étaient là pour les mechas, pour l'esthétique un peu nazie du Gundam originel. Et t'avais toute une nouvelle vague de fans, des jeunes, qui étaient venus via Gundam Wing et qui étaient là pour les beaux gosses de l'espace. Et Gundam Seed a réussi à fédérer tout le monde et à faire venir en plus des jeunes qui ne s'intéressaient ni à l'un ni à l'autre. Et donc, gros succès, plein de ventes de jouets, plein de ventes de maquettes.
Et surtout, Sid était une bonne série bien écrite.
Et c'était très bien écrit parce que c'était une série moderne, mais qui s'inspirait de la première série, du Gundam originel.
Il y a un mec masqué.
Voilà, il y a un mec masqué, il y a un complot, il y a des amitiés. Il y a des amis qui sont dans les deux camps, donc c'est extrêmement tragique.
Il y a
plein de morts injustes, enfin voilà quoi.
Des sacrifices.
Et le robot change en cours de série, donc tu dois en acheter deux, donc les sponsors sont contents.
Et le robot qui arrive, il est encore plus puissant avec des ailes.
Il a encore plus d'ailes, il a encore plus de... Voilà. Et il y a ce petit côté un peu Macross qui a fait que les vieux fans ont apprécié, c'est qu'il y avait deux héros en fait. Le jeune héros de 16 ans qui est plus ou moins élu parce qu'il aime pas se battre, mais en fait il est super balèze. Et un pilote un peu vétéran comme Roy Fokker dans Robotech qui servait justement de... Et les deux, en parallèle, sont les personnages principaux. Alors, plus le jeune, évidemment. Il y a du sexe aussi. C'était très, très étonnant. C'est qu'il y a du sexe.
Il y a des relations...
Non, mais il y a du sexe, c'est implicite.
Oui, bien sûr.
À un moment, le héros pète un plomb. Donc, pendant 10 épisodes, c'est un dark héros, quoi. Et il pique la meuf d'un des autres gars. Enfin, c'est vraiment... C'est une série qui se permettait beaucoup de choses pour un Gundam à l'époque. Et voilà, j'ai trouvé ça fabuleux. Donc du coup,
et des super rebondissements, hein, vraiment, c'est ça qui est... Je trouvais que les twists étaient bien et la dimension politique qui était plutôt bien écrite, parce qu'en général, on l'a vu avec Gundam Age, il suffit pas juste de copier Gundam et Zeta Gundam pour être un bon Gundam, quoi.
Et donc du coup, carton plein, hein, on va faire Gundam Seed Destiny. Sauf que Gundam Seed Destiny met les potards à fond sur les Fujoshi. Donc les Fujoshi en japonais, c'est comme ça qu'on appelle les jeunes femmes qui sont fans de boys love, qui font des fanzines un peu homo-érotiques, etc. Et ils ont mis tous les potards à fond. Toutes les nanas, les personnages féminins de Gundam Seed étaient très intéressants. Elles sont toutes devenues des cruches à sauver. Tous les personnages prenaient des douches à chaque épisode.
Et ils ont augmenté le nombre de beaux gosses. Ils ont rajouté.
Ouais. Donc il y a un nouveau héros qui est plus jeune, qui prend des douches tout le temps, qui passe son temps à crier, qui pleure, qui comprend rien.
Très énervant.
C'est comme s'ils avaient fait un beau gâteau et avec Gundam Seed et qu'ils avaient fait caca dessus sur Gundam Seed Destiny.
C'est exactement ça.
Quelle belle image.
Je me souviens que tous les épisodes, on était atterrés. On en parlait entre nous. J'ai pas
réussi à aller au bout, quoi. C'était insupportable.
Et je trouvais que, quelque part, Seed Destiny s'arrêtait et on pensait qu'ils avaient fermé la parenthèse Seed parce que Seed Destiny a été non seulement catastrophique, mais en plus, l'audience a chuté, les jouets se vendaient plus, les fans n'étaient plus contents, quoi.
Les fans étaient moins contents, mais comme il y avait un bon souvenir de Gundam Seed, il me semble que c'était il y a une dizaine d'années à peu près, Gundam Seed a été refait en 16/9e. Gundam Seed, donc, c'est une série du début des années 2000, donc l'événement, c'était que le vaisseau mère était en 3D, en cel shading, et l'intégration était plutôt réussie. Mais évidemment, ça vieillit très vite, la 3D. Donc Gundam Seed a eu une ressortie en 16/9. Alors c'est évidemment l'original recoupé, remasterisé.
Je regarde des extraits de temps en temps sur YouTube parce qu'il y a des extraits complètement légaux sur YouTube. Et...
Tout ça pour dire que fin avril...
Oui, ah oui, donc
sortie exceptionnelle sur deux jours, un petit peu comme Godzilla Minus One.
27 et 28
sort en France.
Gundam Seed Freedom.
Donc qui est le long métrage.
Ouais.
Inspiré de...
C'est la suite. C'est la suite. Et je pense qu'ils ont dû prendre... c'est le long-métrage Gundam qui a rapporté le plus d'argent au Japon. Alors, il y a eu...
Il y a beaucoup d'amour sur Gundam Seed.
Il y a eu Gakushurne Char, il y a eu F91. Enfin, il y a eu deux autres, ils ont ressorti Zeta. Mais là, c'est vraiment l'énorme carton au Japon. Donc, je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Et ça reprend après. Je pense qu'ils... je veux pas me spoiler, c'est pour ça que j'ai pas voulu trop m'impliquer là-dedans et je le vois dans deux semaines. Ils ont essayé de faire ce qui fonctionnait dans Seed, ce qui fonctionnait pas dans Seed Destiny. Ils ont l'air d'avoir été intelligents là-dessus. Juste, il y a un truc inhérent à Seed. Le problème, c'est que le héros est trop fort. Tu parlais de l'élu. C'est Jésus sur Terre. C'est-à-dire, il est intouchable, il a un robot surpuissant. S'il est touché...
Que seul lui peut piloter, en plus.
Oui, s'il est touché...
Il faut des capacités mentales particulières.
Voilà, ils ont leur version de New Type. Mais j'ai envie de retourner dans cet univers. En fait, j'ai vraiment envie d'en retourner. Je trouvais que les musiques de l'époque, elles tapaient. Vraiment, les génériques de Sid étaient. Sid et Sid, on ne peut pas leur enlever ça. Ils étaient très entraînants. Et c'était vraiment des cartons. Tu te souviens
Bah oui, tu me les envoyais régulièrement. Ah bah ouais. Ouais, je me souviens bien.
Lion Mighty Color et tout ça. Voilà. Et du coup, bah voilà, je suis assez impatient de.
Bah
de
écoute, ça. Tu nous débrieferas ça.
27-28 avril.
Ouais, 27-28 avril. Normalement, tu nous débrieferas lors de la prochaine émission. Ouais.
Est-ce qu'on sait dans quel circuit cinéma Genre CGR
CGR. Oui. CGR. Ouais. Toute manière, ces opérations spéciales sont générales CGR. J'avais.
Dernier reco.
J'en ai encore deux.
Ouais,
faut en garder pour le directeur.
Il y a un
bouquin qui s'appelle Japanese Only. Alors. Oula. Jérôme Schmitt, je sais pas si on en a parlé au précédent.
Recul. Ouais.
C'est bon, j'y suis. Ouais. Merci, Maryse. Jérôme Schmitt, qu'on entendra peut-être parler dans le précédent ou alors dans les Director's Cut, il avait écrit le bouquin sur les combini, tu sais, dans cette collection, le Japon,
oui,
et tout ça.
Oui, oui.
Et je t'avais dit à l'époque, mais c'est le mieux écrit de la collection. Tu sais, il y a eu celui avec.
Les dates.
Florent Dabadie.
Il y a eu Florent
Dabadie. On en
parle
à toutes les émissions, donc. Ouais.
Bah oui,
quasiment.
De toute manière, ils en sortent. Hein. Et donc, il avait suivi sur les combini, et je l'avais lu, et il était vraiment bien écrit. Et du coup, je vois, hop, ça c'est sorti. Donc, alors, je peux pas vous montrer les photos.
Non. Pas sur l'émission.
Voilà, pas sur l'émission normale.
De base.
Comme on disait chez Micronews, c'est le Nippon Fripon. Voilà.
Voilà, c'est un peu. Alors, oui, mais en même temps. Je peux pas montrer trop de photos parce que je risque de tomber sur des photos qu'on peut pas montrer. Mais voilà, une plongée.
Plongée inédite.
Alors, il y a des belles photos.
Dans la nuit japonaise, c'est fantasme.
Et c'est bien écrit. C'est vraiment très, très bien écrit. Donc, je vous le recommande.
Bien écrit, bien illustré.
Idée
cadeau.
Il faut aimer les photos de sortie de boîte de nuit à 4h du matin. Quoi.
On en reparlera peut-être dans le Director's Cut. On parlera peut-être des nuits.
Les Director's Cut japonaises,
Director's Cut,
je connais rien. Hein,
classé X, peut-être pour la première fois.
Oh là là.
Voilà. Hubert est trop content. Hubert, il ricane, il est là. Ouais, c'est super. Ouais. On voit ce qu'il fait au Japon. Hein.
Très bien.
On regarde pour après.
Greg, petit point polymanga ou pas du tout? C'est vrai que ça avait eu lieu là.
J'en reviens. Donc ça s'est très bien passé. Pour la première fois depuis une douzaine d'années, on était de retour à Lausanne, puisque l'antre de Polymanga et donc du Montreux Jazz Festival est en travaux pour plusieurs années.
Ah mince.
Écoute, il y a eu plus de 50 000 visiteurs,
wow.
des invités de marque, énormément de gens. J'étais agréablement surpris, beaucoup d'auditeurs qui m'ont vu sur le stand Kurokawa. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous
êtes mon métier.
Voilà, oui, mon vrai boulot, c'est éditeur de manga.
Identité secrète.
Et du coup, voilà, j'ai honteusement gagné un quiz.
C'est vraiment quiz jeux vidéo.
Oui, bah non, le président de l'association Swiss Gamer que je salue en avait marre parce que tous les jours il organisait des quiz et personne, enfin les gens n'étaient pas bons parce que il y avait évidemment des questions sur les animés d'aujourd'hui, mais dès qu'ils mettaient une image de Capitaine Flamme ou un vieux générique, les gens se regardaient, tu sais, genre, qui me dit, tu veux pas venir? Et donc, du coup, le dernier jour, j'ai mis 20 points à tout le monde.
Bah, sans blague.
Mais bon, j'ai offert mon lot aux autres. Voilà.
Ça, c'est beau gosse. Ouais. Ça me fait penser qu'il y a 5 ans, on était sur la scène de Polymanga pour célébrer les 25 ans de Final Fantasy VI.
Et donc, il en a 30.
Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui même.
Il y a 2 avril.
Ça ne nous rajeunit pas. Et on a un autre anniversaire à fêter, Pouillot. C'est combien de temps?
Arrête de taper sur la table.
Oh, excuse-moi, c'est vrai.
C'est pas moi, hein, c'est à Hubert qu'il faut s'excuser.
Hubert. Hubert, merci Hubert.
Il est obligé de couper tous les sons après.
En fait, à chaque fois que tu tapes, je le vois froncer un sourcil.
Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'il est
grognon.
Ouais. Bah oui, ça fait 9 ans qu'on s'est réunis tous les 3, j'allais dire tous les 3 plus 1, puisque Hubert était déjà aux manettes parler de jeux vidéo japonais autour d'une table, ce qui est un concept complètement inédit. Concept étendu, hein, désormais.
C'est vrai.
Puisque la table est plus grande.
Ouais. Et parce qu'on évoque d'autres sujets.
Oui, on évoque d'autres sujets et on ne s'interdit pas de reparler des sujets qu'on. Ouais. Parce qu'on y repensait, par exemple, quand on faisait Toriyama. On a fait, à l'époque, mais il y a 5-6 ans, on a fait un spécial jeu vidéo Dragon Ball, parce qu'on les connaît un petit peu quand même. Et c'est pas.
Connais-moi les modernes, hein, cela dit.
Ah, quoi, les Sparking, les trucs ça. Mais il y en avait beaucoup, mais après, les plus intéressants à évoquer, je pense que c'est.
Oui.
C'est les autres. D'ailleurs, j'ai joué au DLC, il y a encore des DLC Kakaroto qui sortent. Mmh. Et. C'est super jouissif.
C'est Oob, là, c'est ça qui est sorti.
C'est Oob qui est sorti, et là, je me fais Future Trunks. et tu découvres des trucs incroyables comme c'est Tortue Géniale a sauvé Trunks à un moment dans le futur. Genre Tortue Géniale est vivant, il vit dans un... et ils se sont posé la question qu'est-ce que fait Tortue Géniale pendant ça, parce qu'il est pas mort. Donc Tortue Géniale vit dans un sous-marin à côté de son île.
Je pense qu'il lit Japanese Only.
C'est ce que je me suis dit. En fait, je suis allé dans la maison, il y avait plus de bouquins, il y avait plus rien. Donc la maison était vidée. Donc
Tortue Géniale a mûri lui aussi.
Ouais. Ou alors peut-être il s'est dit l'ambiance est quand même dramatique.
Il s'est dit je vais les planquer un peu plus.
Tortue Géniale, ça a toujours été le personnage compliqué quand même.
Compliqué mais puissant.
Oui et non. Enfin, c'est...
Il a détruit la Lune.
Oui, mais enfin, sur l'échelle du pouvoir dans Dragon Ball, c'est pas grand-chose finalement.
Maintenant,
tu le vois rapidement dépasser.
Quand tu détruis des galaxies, finalement.
Non, mais enfin, il est très paradoxal le personnage de Tortue Géniale, parce que dès que Piccolo renaît, il est un peu. Enfin, c'est sa limite, tu vois. Derrière, il fait plus le tournoi suivant. Quand les Saiyans sont là, bon, il est largué, c'est terminé. Mais dans le film de Freezer, il se bat contre des gens qui sont encore plus puissants et enfin, ça n'a aucun sens. Et je me souviens de cette interview lunaire où on disait à Toriyama, mais pourquoi est-ce que Tortue Géniale il peut se battre contre des Saiyans qui sont plus forts, enfin contre des Saiyans, contre des soldats de Freezer qui sont encore plus forts que quand Nappa et tout ça. Je dis ah, parce que là il était vraiment très très énervé, très ouais, donc tout le monde est mort, enfin Nappa tue tout le monde mais Tortue Géniale reste dans sa cuisine. Par contre Freezer revient 10 ans plus tard, là il trouve le moyen de... Voilà, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il ne faut pas trop réfléchir à Dragon Ball.
Il y a des petites incohérences de...
L'échelle
de puissance.
L'échelle de pouvoir est un peu compliquée.
Je veux dire, si tu regardes, moi je connais un petit peu le tournoi des galaxies de Dragon Ball Super grâce à mon fils. Et enfin, Tortue Géniale participe au tournoi. Enfin, il se bat contre des menaces.
Il participe au tournoi.
Mais bien sûr, il participe au tournoi. C'est même
vrai.
C'est même lui qui apprend l'instinct transcendantal à. Comment ça s'appelle? Le réflexe transcendantal en français et l'ultra instinct en anglais à Sangoku. Tu sais quand il a les cheveux gris.
C'est
Tortue Géniale qui lui apprend.
Non. Bah ouais, mais comment il le sait? Quoi?
Ben, c'est comme ça. Voilà.
Et c'est pas à moi que vous allez dire que tout ce qui se passe après Cell n'existe pas, hein, mais
rappelons-le, ta fille a été déçue.
Ce fut une tragédie, l'arc-bout et la fin de l'arc-bout en particulier.
Mais tu sais que je pense que c'était une remarque très pertinente de Greg sur le fait que Majin Buu, en fait, c'est vraiment Toriyama sans filtre. C'est-à-dire, c'est Toriyama sans la puissance de l'éditeur.
Ah bah, c'était pas une remarque, c'était la vérité.
C'est enfin, la vérité. C'est... Non, mais vraiment, c'est très important dans le sens où, oui, les gens détestent Majin Buu, mais c'est parce que c'est quelque chose qui casse avec ce qui a été éditorialisé. Et là, tout d'un coup, Toriyama était seul tout à bord.
Bah, c'est-à-dire que tout le monde prenait la grande majorité des lecteurs de Dragon Ball le prenait très au sérieux, mais pas son auteur.
Et là, tout d'un coup, on avait des gentils transformés en chocolat. C'est pas...
Vous l'avez dit, on ne s'interdit pas également de parler de jeux vidéo dans cette émission après une petite heure. Voilà, c'est normal, c'est le tarif. Alors on va aborder la question de toutes les sorties du mois de mars. Et on a eu...
Encore une.
Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer, on va surtout s'attarder sur Unicorn Overlord, mais néanmoins, on va évoquer
Dragon's
Dogma 2, Rise of the Ronin, Princess Peach Showtime et d'autres surprises pour maintenir un petit peu l'attention.
Hubert a déjà faim, je te
fais. Oui, nous aussi. Allez, on se fait une petite page.
Un petit chocobon.
On appelle ça un eye catch et on revient juste après. C'est parti.